Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, ce sera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de vos divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, une petite annonce avant de commencer le cours. Il me reste deux places pour la retraite du 27 mai au 1er juin. Il reste encore des places également pour les deux dernières retraites de l'année en septembre et octobre. Mais pour le moment, je cherche du monde pour remplir la retraite du 27 mai au 1er juin. Donc si vous êtes intéressé, veuillez me contacter le plus vite possible. 06 32 01 65 16. Merci. Alors, sur le polycopier de la somme théologique, du cours sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, nous en sommes à la page 157. Toujours dans le grand traité des verbos incarnato, sur le verbe incarné, nous en sommes à la question 52, à l'article 5. Donc nous avançons lentement dans ce traité fondamental. Je vais peut-être arriver à terminer ce traité aujourd'hui, nous verrons, Dieu aidant. Avant de commencer, toutes les explications de saint Thomas d'Aquin concernant les sacrements. Donc, question 52, article 5. Le Christ a-t-il délivré des enfers les saints patriarches? Donc, j'ai déjà expliqué que les enfers dont parle ici saint Thomas n'a rien à voir avec l'enfer des damnés. Quand on parle des enfers au pluriel, en français, on parle de cette salle d'attente, en quelque sorte, qui a aujourd'hui disparu, pour tous les justes de l'Ancien Testament. On appelait ça aussi parfois le Saint d'Abraham. Alors, voilà ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. Il va citer saint Augustin. Vous savez que cette descente du Christ aux enfers est deux fois, puisqu'elle est dans toute lettre dans le credo. Il est descendu aux enfers. Le Christ, en descendant aux enfers, donc, dit saint Augustin, en a brisé la porte et les verrous de fer, et il a délivré tous les justes qui se trouvaient enchaînés par le péché originel. Je vous ai déjà expliqué que les justes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas aller au ciel, puisque les portes de l'enfer étaient fermées, les portes du ciel, pardon, étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Par sa descente aux enfers, nous dit saint Thomas, le Christ a agi en vertu de sa passion, et par sa passion, il a libéré le genre humain, non seulement du péché, mais aussi de l'obligation de la peine, comme nous l'avons déjà montré. Donc les hommes étaient astreints à l'obligation de la peine d'une double manière, dit saint Thomas. D'une part à cause du péché actuel, que chacun commet personnellement, et d'autre part à cause du péché de nature, le péché de toute la nature humaine, qui passe du premier père chez tous les hommes par voie d'origine. Donc tous les hommes sont atteints de ce péché de la nature, péché originel, sauf notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité et la très sainte Vierge Marie, qui est l'Immaculée Conception, qui donc n'a pas été atteinte par la corruption du péché originel. Donc, à la question, le Christ a-t-il délivré des enfers les saints patriarches? Il y a tous les justes de l'Ancien Testament qui attendaient dans le Saint d'Abraham, et bien la réponse est évidemment positive. Donc, aussitôt que le Christ eut subi la mort, son âme descendit aux enfers et communiqua le fruit de sa passion aux saints qui étaient enfermés. Ensuite, nous voyons si le Christ a délivré de l'enfer des damnés, c'est-à-dire ceux qui étaient en enfer, les démons. Ça, c'est la question 52, article 6, toujours dans la tertia pars. Il est évident que là, la réponse est négative. Donc, attention, notre Seigneur a délivré ceux qui étaient aux enfers, les saints d'Abraham, les justes de l'Ancien Testament, mais pas ceux qui étaient en enfer, au singulier, à savoir les damnés. Par la descente du Christ aux enfers, en enfer plutôt, au singulier en français, personne n'a été délivré. Exactement, je reprends. Par la descente du Christ aux enfers, au pluriel, personne n'a été libéré de l'enfer des damnés. Notre Seigneur n'est pas allé dans l'enfer des damnés. Sa descente aux enfers, le Saint d'Abraham, cette descente aux enfers n'a-t-elle apporté le fruit de la délivrance qu'à ceux... Pardon, je reprends le texte de Saint Thomas. Aussi, sa descente aux enfers n'a-t-elle apporté le fruit de la délivrance qu'à ceux qui avaient été unis à la passion du Christ par la foi jointe à la charité qui en est la forme et qui enlève les péchés. Or, ceux qui se trouvaient dans l'enfer des damnés, ou bien n'avaient possédé la foi d'aucune manière, comme les infidèles, ou bien, s'ils avaient possédé la foi, n'avaient eu aucune conformité avec la charité du Christ souffrant. Ils n'avaient donc pas été purifiés de leurs péchés. Telle est la raison par laquelle la descente du Christ aux enfers ne leur a pas apporté la délivrance de leur obligation de la peine à la peine de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir être sauvé, il faut avoir la charité. Il est de foi que toute personne qui meurt en état de grâce, c'est-à-dire avec une foi jointe à la charité, va au ciel. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il n'est pas possible d'avoir la vertu de charité sans avoir la foi. Donc quelqu'un qui a la vertu de charité, qui est en état de grâce, charité, état de grâce, je vous l'ai déjà expliqué 20 fois, c'est la même chose. Quelqu'un qui a la charité a automatiquement la foi. Il ne peut pas avoir la foi sans la charité. La charité, en quelque sorte, a besoin de la foi pour pouvoir se reposer. Donc si la foi et la charité sont là, eh bien, cette personne qui meurt dans cet état de foi jointe à la charité va au ciel. Au contraire, si cette personne n'a que la foi sans la charité ou n'a pas la foi du tout, elle ne peut sans la foi avoir la charité, cette personne à ce moment-là ne peut pas aller au ciel et donc tombe en enfer. C'est un résumé en quelque sorte de tout l'enseignement du catéchisme. N'oubliez pas que la charité, dit saint Thomas le reprend et l'explique très bien, est la forme de la foi. La foi sans la charité existe toujours. Attention, on peut avoir la foi sans la charité. C'est le cas de la plupart des catholiques aujourd'hui, malheureusement. Donc la foi sans la charité est une foi informe. La foi, au contraire, jointe à la charité, devient une foi formée parce que la charité est la forme de la foi et c'est cette forme qui enlève les péchés. Voyons la question 52, l'article 7. Ça, c'est un article important, justement pour surtout... rappeler la doctrine de l'Église sur l'importance du péché originel et de ses conséquences et pour rattraper toutes les bêtises qui sont dites constamment dans l'Église de Vatican II qui prétend que tous les enfants morts sans baptême vont au ciel parce qu'ils sont pris dans l'amour du bon Dieu pour toutes ses créatures. Donc saint Thomas d'Aquin se propose à la question 52, article 7 de la Tertia Pars, se pose la question, le Christ a-t-il délivré les enfants morts avec le seul péché originel? Donc c'est le cas, par exemple, de tous les personnes qui meurent sans le péché, sans le baptême, et surtout les enfants avortés. Les enfants, dit saint Thomas, qui étaient morts avec le seul péché originel, n'avaient participé d'aucune manière à la foi dans le Christ, ils n'ont donc pas perçu le fruit de la propitiation du Christ en vue d'être délivré par lui de l'enfer. Donc, attention, bien comprendre le texte. Un enfant qui meurt sans baptême n'a pas la foi ni la charité. Et donc, il ne peut pas aller au ciel. Cependant, il n'est coupable d'aucun péché personnel. Il n'a sur la conscience qu'un péché de nature, le péché d'Adam et Ève, le péché originel. Comme il n'a pas sur la conscience de péché personnel, il ne peut pas être sanctionné par l'enfer. Dieu étant parfaitement juste. Le péché originel étant un obstacle total, absolu à la présence, à la montée au ciel, un enfant qui meurt avec le seul péché originel ne peut pas aller au ciel, n'en déplaise à l'Église de Vatican II. Par contre, un enfant qui meurt avec le seul péché originel, n'ayant aucun péché personnel sur la conscience, ne va pas en enfer. Il va dans les limbes. Les lames, c'est donc un lieu dans lequel vont les gens qui meurent sans péché personnel, avec le seul péché de nature, le péché originel, qui ne sont donc coupables d'aucune faute personnelle, qui ne sont donc pas coupables de l'enfer, et qui vont aller dans ce lieu qu'on appelle les lames, dont on ignore pratiquement tout, sauf son existence. Où sont les lames, on ne sait pas. Quel est le degré de bonheur des enfants, des âmes qui sont dans les limbes, on l'ignore. Saint Robert Bellarmine parle d'un bonheur philosophique. C'est-à-dire que Dieu, dans son immense charité, ne révèle pas à ses enfants qu'ils avaient été créés pour Dieu. Donc ils ne souffrent pas de l'absence de Dieu, puisqu'ils ignorent tout sur lui. Les enfants ignorant tout sur le bon Dieu ne souffrent pas de son absence. La descente du Christ aux enfers n'a apporté la délivrance qu'à ceux qui étaient donc unis par la foi à la charité à sa passion, dit saint Thomas. C'est en effet par elle seulement que la descente du Christ était libératrice. Or, les enfants, qui étaient morts avec le péché originel, n'étaient nullement unis à la passion du Christ par la foi et l'amour. Je répète ce texte, parce qu'il est très important. La foi, ils n'avaient pas pu l'avoir en propre, puisqu'ils n'avaient pas en usage, pas eu l'usage de leur libre arbitre. Ils n'avaient pas non plus été purifiés du péché originel par la foi de leurs parents, ni par quelque sacrement de la foi. C'est pour cela que la descente du Christ aux enfers n'a pas délivré les enfants qui s'y trouvaient. Donc il est faux de dire ce que beaucoup de gens disent, parfois même dans la tradition, attention, j'ai entendu ces bêtises aussi dans la tradition, que la foi de la mère peut sauver l'enfant qu'elle porte en son sein. Et que donc si un enfant meurt par une fausse couche, par exemple, cet enfant peut aller au ciel à cause de la foi de la mère. C'est faux. C'est faux parce que l'enfant n'a pas l'usage de son libre arbitre, explique très bien saint Thomas d'Aquin. On entend aussi des gens, même parfois dans la tradition, qui nous disent que un enfant de ce genre est sauvé par un baptême de désir, par le baptême de désir de la mère pour son enfant. C'est également faux parce qu'un baptême de désir ne peut s'exercer que par quelqu'un qui a l'usage de son libre arbitre. Vous pouvez avoir un baptême de désir pour vous, mais pas pour le voisin. Vous pouvez prier pour que le voisin ait un baptême de désir, vous pouvez prier pour que le voisin soit baptisé, mais vous ne pouvez pas obtenir que le voisin puisse aller au ciel sans l'usage de son libre arbitre. C'est impossible. C'est contre la sagesse divine. Alors attention, dans tout ce domaine-là, il ne faut pas réagir avec les sens. C'est ça le problème de beaucoup de catholiques, c'est qu'ils sont tellement sentimentaux qui se dit ce n'est pas possible qu'un enfant qui a été créé par le bon Dieu puisse, à cause du péché originel, ne pas voir Dieu. Encore une fois, cet enfant ne souffre pas puisqu'il n'est pas coupable d'aucun péché personnel. Mais ceci nous rappelle l'importance du dogme de foi sur le péché originel auquel les membres de l'Église de Vatican II ne croient plus du tout. C'est pour ça qu'ils racontent des tas de bêtises sur le sujet. Parce qu'ils ne croient plus au péché originel. Évidemment, si le péché originel n'existe pas, à ce moment-là, tout le monde peut aller au ciel parce qu'il n'y a plus de péché. Donc attention à bien garder la tradition de l'Église sur ce sujet. Donc, la grâce du Christ parvient seulement, dit saint Thomas, à ceux qui sont devenus ses membres par une régénération spirituelle. Et ce n'est pas le cas des enfants morts avec le péché originel. Alors, pourquoi il faut baptiser les enfants qui... immédiatement après leur naissance. Bon, si une maman qui porte un enfant en son sein perd son enfant par une fausse couche, par exemple, bon, malheureusement c'est une catastrophe, mais la maman ne peut pas, encore une fois, avoir le baptême de désir pour son enfant. Ce n'est pas possible. Elle peut prier pour obtenir la lumière divine sur l'âme de son enfant, mais elle ne peut pas obtenir que l'enfant aille au ciel, même si elle le souhaite ardemment. Ce n'est pas possible si l'enfant a le péché originel en lui. Cela nous aide à comprendre la gravité du péché originel et la nécessité de baptiser les enfants le plus vite possible. Je suis un petit peu surpris de voir que même parfois dans le milieu de la tradition, on a des parents qui attendent parfois des semaines et des semaines avant de baptiser leur enfant. C'est peut-être qu'ils veulent absolument que toute la famille, tous les membres de la famille soient là. Attention, c'est une erreur. C'est même une faute grave, à mon avis, d'attendre, je crois que mes souvenirs sont exacts, saint Alphonse de Ligouri dit qu'il y a faute grave aux des parents d'attendre plus d'un mois. Certainement. On n'a pas le droit d'attendre, il faut baptiser les enfants le plus tôt possible.
Et si le parrain ou la marraine ne peuvent pas être là, par exemple, pour des raisons indépendantes de leur volonté, à cause de la distance, par exemple, ils ne peuvent pas venir immédiatement, à ce moment-là, on baptise l'enfant et quelqu'un représente le parrain et la marraine, qu'on appelle un baptême par proxy. Un parrainage par proxy. Alors, autre question, est-ce que par sa descente aux enfers, donc cette descente de 36 heures entre la mort du Christ, à savoir le vendredi saint à 3 heures de l'après-midi, et la résurrection d'entre les morts le dimanche de Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche de Pâques tôt le matin, par sa descente aux enfers, le Christ a-t-il libéré les âmes du purgatoire ? Eh bien, c'est la même chose. En descendant dans les enfers, il n'a pas délivré les âmes du purgatoire. Il n'a délivré que les âmes qui étaient dans ce sein d'Abraham. Il est clair, donc, que la passion du Christ n'a pas eu alors plus d'efficacité qu'elle en a maintenant. Voilà pourquoi c'est le texte de saint Thomas, ceux qui étaient à ce moment dans l'état où sont maintenant les âmes du purgatoire n'ont pas été délivrés du purgatoire par la descente du Christ aux enfers. Et comme il est important dans tout ce domaine-là de ne pas répondre avec le cœur, mais répondre avec l'intelligence éclairée par la foi. L'intelligence éclairée par la foi. Donc, que les gens qui m'écoutent fassent attention, pas dire de bêtises sur ces sujets. Saint Thomas précise que la passion n'était elle-même satisfactoire qu'en général. Sa vertu devait être appliquée aux hommes par des moyens particuliers et spéciaux à chacun d'entre eux. Il n'est donc pas nécessaire que la descente du Christ aux enfers les libère tous du purgatoire. Donc les faiblesses, autre précision de Saint Thomas, à la fin de l'article, attendez que je ne dise pas de bêtises, on est dans l'article 8 de la question 52. Saint Thomas explique « Les faiblesses dont le Christ guérissait simultanément les hommes en cette vie étaient personnelles et propres à chacun d'eux, mais l'exclusion de la gloire de Dieu est une déficience générale qui atteignait toute la nature humaine, sauf la Sainte Vierge et notre Seigneur en son humanité. Aussi, rien n'empêche que ceux qui étaient dans le purgatoire aient été délivrés par le Christ de cette peine qui est l'exclusion de la gloire, sans être libérés de l'obligation à la peine du purgatoire qui est personnelle à chacun. Les saints patriarches, au contraire, dans les enfers, donc le saint d'Abraham, au contraire, ont été libérés avant l'arrivée du Christ de leur peine personnelle, mais non de la peine commune. Donc il a fallu attendre à ce moment-là la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la descente de l'âme du Christ jointe à sa divinité dans l'enfer des patriarches pour libérer les patriarches, les justes de l'Ancien Testament, de leur peine. À question 53, maintenant, saint Thomas va se poser la question de la résurrection du Christ en elle-même, à savoir de la nécessité de la résurrection. Est-ce que la résurrection du Christ était nécessaire? Donc saint Thomas va donner 5 raisons de la nécessité de la résurrection du Christ. D'abord, première raison, pour la glorification de la justice divine. Il va citer Saint-Luc, il a déposé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Donc, puisque le Christ s'était humilié jusqu'à la mort de la croix par charité, par obéissance à Dieu le Père, il fallait que Dieu le Père l'exalte jusqu'à la résurrection glorieuse. Donc, première raison, glorification de la justice divine. Deuxième raison pour laquelle le Christ devait ressusciter, l'instruction de notre foi. Et cite encore saint Paul, quoi qu'il ait été crucifié en raison de sa faiblesse, il vit cependant par la vertu de Dieu. Donc la résurrection va augmenter notre foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième raison, le relèvement de notre espérance. Il cite encore saint Paul, si l'on prêche que le Christ est ressuscité, comment certains parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas eu de résurrection des morts ? Donc, ça augmente la foi, l'espérance et la charité. Donc, quatrième raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Première raison, glorification de la justice divine. Deuxième raison, l'instruction de notre foi. Troisième raison, le relèvement de notre espérance. Quatrième raison, la formation morale des fidèles. Il recite Saint Paul aux Romains, le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchons dans une vie renouvelée. Et il ajoute, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, de même vous croyez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. C'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est aussi le symbole de notre propre résurrection. Mais attention, toujours pareil, il ne faut pas dire pour autant que puisque notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, donc tous les hommes ressuscitent et vont tous au ciel. Non, ça c'est faux, c'est du pur modernisme. Puisqu'il faut être uni à la vertu de charité, c'est-à-dire être en état de grâce, pour pouvoir bénéficier des conséquences de la résurrection du Christ. Enfin, cinquième raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ devait ressusciter d'entre les morts, l'achèvement de notre salut. Car si en mourant, il a supporté les maux afin de nous en délivrer, en ressuscitant, il a été glorifié afin de nous pousser vers le bien. Il s'est livré pour nos péchés, dit Saint Paul, il a ressuscité pour notre justification. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est bien ressuscité à cause de cela le troisième jour. Donc il l'avait prophétisé plusieurs fois, il a dit plusieurs fois aux apôtres, ils livreront le Fils de l'homme aux païens afin de le bafouer, de le flageller, de le crucifier, mais il ressuscitera le troisième jour. Donc la résurrection du Christ est donc nécessaire pour l'instruction de notre foi qui porte sur la divinité, sur l'humanité du Christ. Il ne suffit pas de croire à la divinité, il faut croire en la divinité et l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Une personne, deuxième personne de la Sainte Trinité, mais une double nature en lui, il est parfaitement homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme, donc il peut mourir, parfaitement Dieu, donc il peut nous sauver. C'est pourquoi, afin de confirmer la foi en la réalité de la divinité du Christ, il a fallu qu'il ressuscite promptement, et que sa résurrection ne soit pas différée jusqu'à la fin du monde. D'autre part, dit saint Thomas, afin de confirmer la foi en la réalité de son humanité et de sa mort, il était nécessaire qu'il y ait un intervalle de temps entre la mort et la résurrection, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il n'était pas vraiment mort. Vous avez des hérétiques qui disent que notre Seigneur n'était pas vraiment mort, il a fait semblant d'être mort, et que les souffrances de la passion ne sont qu'artificielles, qu'apparentes. Par son unique mort corporelle, qui a été lumière en raison de la justice, le Christ a détruit nos deux morts, celle du corps et celle de l'âme, qui sont ténébreuses en raison du péché. C'est pourquoi le Christ est demeuré dans la mort pour un jour entier et deux nuits. Les deux nuits représentent les deux morts, la mort du péché et la mort de l'âme. Il y a une petite remarque intéressante de saint Thomas, un peu plus bas. Il dit que les premiers jours du monde étaient comptés de la lumière à la nuit, dans les sept jours de la création, à cause de la future chute de l'homme. Mais les trois jours du tombeau sont comptés des ténèbres à la lumière à cause de la restauration de l'homme. On commence à compter les trois jours à partir du vendredi saint au soir. Alors, saint Thomas va préciser l'ordre dans lequel s'est accomplie la résurrection du Christ. Donc il explique que si l'on parle de résurrection parfaite, le Christ est le premier des ressuscités, car en ressuscitant lui-même est parvenu le premier à la vie pleinement immortelle. Mais si l'on parle de résurrection imparfaite, certains autres ont ressuscité avant le Christ afin de montrer à l'avance, comme dans un symbole, sa résurrection à lui. Donc je passe sur les choses qui sont secondaires pour nous. Alors, une objection dont on parle souvent, c'est la résurrection de certains morts qui sont ressuscités après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin pense que c'est juste qu'ils sont ressuscités à ce moment-là. Certaines traditions parlent de la résurrection de Saint Joseph, ce qui est possible. Saint Augustin semble être avis que les justes qui ont ressuscité après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint, allaient mourir de nouveau. Alors, toujours en avançant dans le texte de saint Thomas va ensuite parler des causes de la résurrection du Christ. Il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité par sa propre vertu, contrairement à d'autres résurrections. On voit certains patriarches de l'Ancien Testament ou certains prophètes de l'Ancien Testament faire des résurrections, mais par les vertus du Christ à venir. et pas par sa propre vertu, leur propre vertu comme le Christ. Alors voyons à la question 54 maintenant de la tertia part, les qualités du Christ ressuscité. Après la résurrection, le Christ a-t-il eu un corps véritable? Alors là, attention, il faut bien rappeler des choses. Le Christ n'a pas eu un corps imaginaire, mais un corps véritable. Ça, c'est pour lutter contre les modernistes. Les modernistes disent que le Christ ressuscité, le jour de Pâques, n'est pas le même que le Christ qui est mort sur la croix le vendredi saint. C'est une des erreurs condamnées par le pape Saint Pie X dans sa grande encyclique Pascendi, qui explique ce que c'est que le modernisme. Beaucoup de modernistes sont comme ça. Ils disent, mais la résurrection des Christ n'est que le symbole de notre propre résurrection. La résurrection des Christ signifie que nous devons sortir du péché, vivre avec le Christ, et donc c'est le symbole de sa résurrection. Donc, le Christ est vraiment mort de façon définitive le vendredi saint, mais celui qui est ressuscité le jour de Pâques n'est pas le même Christ, mais le Christ qui vit dans nos âmes par la grâce sanctifiante. Donc, quand quelqu'un est en état de grâce, le Christ vit en lui, ça représente la résurrection du Christ. Alors, attention, ça c'est une hérésie très grave, parce que le Christ qui est mort le vendredi saint est exactement le même Christ qui est ressuscité le jour de Pâques. Seulement, il est ressuscité avec un corps glorieux. Donc, il explique que ce corps... Le corps du Christ avait les propriétés des corps glorieux. Ce ne fut donc pas par un miracle, mais par une suite des conditions de la gloire que le corps du Christ, après la résurrection, entra par exemple chez les disciples, les portes étant closes, et se trouva simultanément avec un autre corps dans le même lieu. Donc le bon Dieu avait dans son corps, par exemple, la subtilité qui lui permettait de passer à travers les murs. Ce n'est pas en raison de la nature du corps, mais plutôt en raison de la divinité qui lui était unie, que ce corps, tout en étant véritable, est entré chez les disciples et porte close. Et saint Thomas a une très belle explication. Il dit qu'il put entrer sans ouvrir les portes pour voir les apôtres, celui dont la naissance avait laissé inviolée la virginité de sa mère. De même que le Christ a pu passer à travers le sein de sa mère sans violer sa virginité, elle est vierge avant, pendant et après la naissance du Christ, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, a pu passer directement à travers les murs pour voir les apôtres. Pourquoi ? Parce qu'il avait ce don de subtilité qui lui permettait donc de passer à travers les corps matériels. Avançons dans le texte de saint Thomas. Encore une fois, je ne vous parle pas du tout, j'ai pas le temps. C'est à vous un petit peu après, pour ceux qui sont vraiment intéressés par une question particulière, d'aller voir directement le texte de saint Thomas. Donc le corps du Christ ressuscité, insiste saint Thomas, là on est à la question 54, article 2 de la tertia pars. Le corps de Christ ressuscité était donc un corps glorieux. Bon, il va se poser la question... Pourquoi le corps du Christ ressuscité fut glorieux? Il donne trois raisons. Pourquoi? D'abord parce que la résurrection du Christ est le modèle et la cause de la nôtre. Bon, on l'a déjà expliqué. Il est semé dans l'ignominie, il ressuscitera dans la gloire. Par l'humilité de sa passion, deuxième raison, le Christ a mérité la gloire de sa résurrection. Et enfin, troisième raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux, l'âme du Christ a été glorieuse dès le début de sa conception grâce à la jouissance parfaite de la divinité. Or, c'est par un dessein providentiel que dans le Christ, la gloire n'a pas rejailli de l'âme sur le corps afin qu'il s'accomplisse par sa passion le mystère de notre rédemption. C'est pourquoi, lorsque ce mystère de la passion et la mort du Christ fut accompli, aussitôt l'âme fit rejaillir sa gloire sur le corps qu'elle avait repris à la résurrection, et c'est ainsi que le corps est devenu glorieux. Donc on peut dire que pendant la passion, notre Seigneur Jésus-Christ va cacher sa divinité, elle est toujours là, il y a toujours la vision béatifique, attention, je vous l'ai déjà expliqué, j'insiste, le bon Dieu a toujours eu, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours eu la vision béatifique, parce qu'il était toujours Dieu et homme. Mais il va cacher sa divinité pendant la passion, et là au contraire, après la résurrection, va la faire apparaître beaucoup plus. Donc le corps est devenu glorieux par union à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ après la résurrection, parce que tout ce qui est reçu dans un sujet, dit saint Thomas sur le plan philosophique, l'est selon le mode du sujet. Donc il possédait, dit saint Thomas, quelque chose d'autre qui le rendait incorruptible, non pas une nature de corps céleste, mais la gloire qui rejaillissait de l'âme bienheureuse. Car Dieu a fait l'âme d'une nature si puissante que de la parfaite plénitude de sa béatitude, Dieu a fait l'âme d'une nature si puissante que de la parfaite plénitude de sa béatitude rejaillit sur le corps la plénitude de la santé, c'est-à-dire une force d'incorruptibilité. Si le Christ a pris cependant de la nourriture après sa résurrection, on le voit plusieurs fois manger avec les disciples pour bien montrer qu'il était vraiment le même, la même personne, donc toujours homme et Dieu. S'il a pris la nourriture après la résurrection, ce n'était pas par nécessité, mais tout simplement pour montrer la nature de son corps ressuscité. Donc il est ressuscité avec un corps qui est évidemment intègre. Il est ressuscité avec l'intégrité de son corps. Il a repris alors pour une vie immortelle le corps qu'il avait assumé pour une vie mortelle lors de sa conception. Il est ressuscité avec le même corps. Ça, c'est encore une fois contre les modernistes qui racontent n'importe quoi sur le sujet. Cependant, ce corps, nous dit saint Thomas, ce corps permettait de voir les cicatrices de la résurrection, notamment les cicatrices de son côté, de ses mains et de ses pieds. On voit très bien cela avec le doute de saint Thomas d'Aquin. Notre Seigneur Jésus-Christ va lui dire, mettez votre main dans mon côté, dans les trous des mains et des pieds. Donc il convenait que l'âme du Christ à la résurrection reprenne son corps avec ses cicatrices. Et saint Thomas d'Aquin va donner plusieurs raisons. À cause de la gloire du Christ lui-même, dit-il. Deuxièmement, pour raffermir les cœurs de ses disciples au sujet de la foi en sa résurrection. Troisièmement, pour montrer constamment à son Père en suppliant pour nous quel genre de mort il avait subi pour l'humanité. Quatrièmement, pour insinuer à ceux qu'il rachetait par sa mort avec quelle miséricorde il les avait aidés en mettant sous leurs yeux les marques de sa mort même. Et enfin, cinquième raison, pour faire connaître au jour du jugement combien juste sera la condamnation portée. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux mais qui avait gardé toutes les traces des souffrances de la passion pour bien montrer le degré d'amour qu'il a pour nous, les conséquences du péché sur lui et la justice, si vous voulez, de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard de ceux qui ne veulent pas de lui. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, par ses cicatrices, manifeste bien et sa justice et sa miséricorde. Et le pape saint Léon précise à propos de saint Thomas d'Aquin que non seulement il a vu les blessures du Christ, mais il les a touchées. Il lui suffisait pour sa foi personnelle de voir ses blessures, mais il a travaillé pour nous en touchant ce qu'il voyait. Et les pères font remarquer que le manque de foi de saint Thomas apôtre est bien plus utile pour nous que la foi immédiate de sainte Marie-Madeleine qui a cru en la résurrection de Christ dès qu'elle l'a vu. Pourquoi ? Parce que saint Thomas, en mettant son doigt dans les plaies sacrées de notre Seigneur Jésus-Christ, manifeste une fois de plus la véracité de la résurrection du Christ. Alors, voyons maintenant la manifestation de la résurrection du Christ à la question 55. Saint Thomas d'Aquin se pose d'abord la question de savoir si la résurrection du Christ devait être manifestée à tous. Donc, voilà ce qu'il répond. Parce que le Christ a une résurrection glorieuse, cette résurrection n'a pas été dévoilée à tout le peuple, mais seulement à certains dont le témoignage l'a porté à la connaissance de tous. Donc tout le monde, toutes les âmes n'ont pas assisté à la résurrection du Christ. Donc seuls les apôtres au début et les amis de notre Seigneur Jésus-Christ ont bénéficié de la vision du Christ après sa résurrection. Et bien sûr, le bon Dieu a voulu apparaître à sa mère d'abord, puis aux saintes femmes, et ensuite à ses apôtres et aux disciples. Alors, saint Thomas va jusqu'à se poser la question de savoir s'il aurait convenu que le Christ ressuscitât à la vue de ses disciples. Il va répondre en disant que la résurrection même du Christ ne devait pas être directement vue par les hommes, mais leur être annoncée par les anges, justement pour augmenter la foi nécessaire des disciples qui n'avaient pas assisté à la résurrection de notre Seigneur. Même les soldats du temple, les soldats juifs ou romains qui étaient de garde à la porte devant la pierre du tombeau du Christ, n'ont pas vu la résurrection, vraisemblablement, puisque dès qu'ils ont vu l'ange de lumière qui est venu bouger, déplacer la porte de la porte de pierre qui fermait le tombeau hermétiquement, du bout de son aile, donc ils ont complètement paniqué, ils sont tombés la tête contre le sol, par panique, si vous voulez. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux de nouveau, notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà ressuscité d'entre les morts, donc ils n'ont pas vu la résurrection. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ va non pas vivre tout le temps avec les apôtres après sa résurrection, avec ses disciples, mais il va leur apparaître plusieurs fois. Lorsque j'étais encore dans la chair mortelle en laquelle vous êtes, attendez, je reprends un texte. Je ne mélange pas tout. Voilà ce que dit Saint Bède le Vénérable. Le Christ était en effet ressuscité dans la même chair, mais il n'avait plus leur mortalité parce que son corps était devenu glorieux. Mais il est ressuscité dans la même chair dans laquelle les disciples étaient. Pour bien montrer que sa résurrection est une résurrection véritable, il a un véritable corps humain, mais glorieux. Avec le privilège des corps glorieux. Alors, avançons dans ces questions. Saint Thomas se pose la question de savoir si le Christ devait apparaître à ses disciples sous un autre visage. Voilà ce qu'il répond. Le Christ, après la résurrection, apparut sous son propre visage à ceux qui étaient disposés à croire. Mais à ceux qui n'avaient qu'une foi tiède, il apparaît sous un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par manque de foi, on voit très bien que certaines personnes ne reconnaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Sainte Marie-Madeleine voit le Christ pour la première fois après la résurrection, elle ne le reconnaît pas, pensant que c'était le jardinier. Il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ l'appelle par son prénom, Marie, pour qu'elle le reconnaisse, par un miracle de Dieu. Un effet de sa miséricorde. De même, les disciples d'Emmaüs ne croient pas, ne voient, voient notre Seigneur Jésus-Christ se joindre à eux sur le chemin d'Emmaüs, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est simplement lorsqu'il va commencer les paroles de la Sainte Messe à l'auberge qu'ils vont le reconnaître. C'est la même chose pour la pêche miraculeuse après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres qui pêchent, mais voit notre Seigneur Jésus-Christ sur la rive qui leur dit d'aller de jeter le filet à droite et ils obéissent et ils remplissent le filet de poisson alors qu'ils avaient passé toute la nuit sans prendre aucun poisson. Eh bien, on voit très bien qu'ils ne le reconnaissent pas tout de suite. C'est Saint Jean qui veut le reconnaître. Donc, le Christ a permis que les yeux de ses disciples soient ainsi empêchés jusqu'au mystère du pain, par exemple pour le cas des disciples d'Emmaüs, qui étaient Cléophas et Saint-Luc, pour que la participation en l'unité de son corps écarte l'obstacle par lequel l'ennemi les empêchait de reconnaître le Christ. Donc, c'est un symbole aussi, la Sainte Eucharistie ouvre les yeux de l'âme, comme ils ont ouvert les yeux corporels des deux disciples d'Emmaüs. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va donc manifester, nous dit Saint Thomas, la réalité de sa résurrection par des preuves. Le Christ a prouvé sa résurrection aux disciples par l'autorité de la Sainte Écriture, qui, elle, est le fondement de la foi lorsqu'il a dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. » Mais il va leur apparaître physiquement pour bien leur montrer la réalité de sa résurrection. Donc ces signes de la résurrection, le Christ les a montrés à ses disciples. D'abord, parce que leur cœur n'était pas disposé à accepter facilement la foi en sa résurrection. C'est pour ça qu'il va leur reprocher, entre autres aux disciples d'Emmaüs, ce manque de foi insensé et lent à croire. Il leur reprocha, nous dit Saint Marc, leur incrédulité, leur dureté de cœur, mais aussi afin qu'à la suite de ces signes, leur témoignage soit rendu plus efficace. Pour l'augmentation de la foi des disciples des apôtres et la nôtre, notre Seigneur Jésus-Christ prouve sa résurrection véritable en apparent à ses disciples avec son corps glorieux. Alors, on avance dans le texte de saint Thomas. Le Christ a manifesté sa résurrection par des témoignages, par des preuves ou par des signes. D'abord le témoignage des anges, et d'autre part le témoignage de la Sainte Écriture. Les preuves furent donc suffisantes pour établir que sa résurrection était réelle et glorieuse. Qu'elle soit réelle, il le montra en ce qui concerne son corps, sous trois aspects. Il montre en effet que c'était un corps réel et résistant, et non pas un corps imaginaire ou éthéré, comme un fantôme, comme l'air. C'est pourquoi il donna son corps à toucher en disant « Touchez, voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai, c'est pour ça qu'il a mangé devant eux. » Deuxièmement, parce que c'était un corps humain. Le Christ présenta à ses disciples son visage véritable qu'ils pouvaient voir de leurs yeux. Et enfin, c'était le même corps individuel qu'il avait eu auparavant, car il leur fit constater les cicatrices de ses blessures en leur disant de nouveau « Voyez, mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Cette résurrection était aussi réelle, il le montra en ce qui concerne l'âme qu'il a de nouveau unie à son corps par des actions de chacune des trois vies, vie végétative, vie sensitive, vie intellectuelle. Par la vie végétative, il l'a prouvé qu'il avait cette vie végétative en mangeant et buvant avec ses disciples. Il a prouvé qu'il avait une vie sensitive en répondant aux questions de ses disciples et en saluant ceux qui étaient présents. Il a prouvé qu'il avait une vie intellectuelle, une vie raisonnable, en conversant avec les disciples, en expliquant les Écritures. Donc je vous rappelle qu'un arbre, par exemple, a une vie végétative. On dit en philosophie qu'il a une âme végétative parce qu'il a la vie, mais il ne sent rien, il ne comprend rien. Un chat a une vie végétative et une vie sensitive parce qu'il vit, mais qu'il peut sentir. Et un homme a une vie végétative, une vie sensitive, une vie intellectuelle. Donc un chat, un chien ou un dauphin ne peuvent pas comprendre quoi que ce soit puisqu'ils n'ont pas de vie intellectuelle. Donc pour que rien ne manque à cette manifestation du Christ, il révéla aussi qu'il possédait la nature divine en faisant un miracle, celui de la pêche miraculeuse, et plus tard en montant au ciel sous leurs yeux. Saint Thomas cite Saint Jean, « Personne ne monte au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Quant à la gloire de sa résurrection, le Christ va la montrer à ses disciples en entrant auprès d'eux toute porte close. Alors, continuons dans ce texte de Saint Thomas d'Aquin. Encore une fois, je saute sur les parties qui ne sont pas importantes pour vous. Nous arrivons à la question 56 sur la causalité de la résurrection du Christ. Donc saint Thomas va d'abord se poser la question de savoir si la résurrection du Christ est la cause de notre résurrection. La réponse est affirmative. Le Christ est la cause efficiente de notre résurrection. Le Verbe de Dieu a d'abord conféré la vie immortelle au corps qui lui était uni par nature, et par lui, il opère la résurrection de tous les hommes. Donc nous participons de cette façon à la résurrection du Christ. Donc la résurrection du Christ, dit saint Thomas, n'est pas cause méritoire de notre résurrection, mais elle est la cause efficiente et la cause exemplaire. C'est elle qui provoque en quelque sorte cette résurrection qui sera la nôtre, à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura la résurrection de tous les hommes, y compris les damnés. Ceux qui sont damnés ressusciteront pour tomber en enfer. Leur corps, à ce moment-là, rejoindra l'âme en enfer. Mais ceux qui vont au ciel, donc, vont voir leur corps glorieux rejoindre leur âme au ciel. Il va y avoir de nouveau donc l'union de l'âme et du corps de chacun d'entre nous au ciel. Pour ceux qui sont morts en union avec notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité. Donc la cause primordiale de la résurrection des hommes est la justice divine en vertu de laquelle le Christ a le pouvoir de faire le jugement en tant que fils de l'homme. Et la vertu efficiente de sa résurrection s'étend donc non seulement aux bons, mais aussi aux méchants qui sont soumis à son jugement. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est encore roi, attention. Il est roi, rappelez-vous, il est roi, il est présent, il est roi par sa présence, par sa puissance et par son essence. Par sa présence parce qu'il est partout, par sa puissance parce qu'il peut tout, par son essence parce qu'il est cause de tout. Donc la résurrection du Christ est cause, de cette façon, de notre résurrection personnelle. La résurrection du Christ est aussi cause de notre justification. Voilà comment le dit saint Thomas, en citant la glose du 1er siècle. La résurrection du Christ est la cause de notre résurrection, celle de notre âme dans la vie présente, celle de notre corps dans l'avenir. Pourquoi la résurrection du Christ possède d'une manière instrumentale une vertu efficiente, non seulement pour la résurrection des corps, mais aussi pour la résurrection des âmes. Donc cette résurrection du Christ est cause exemplaire par rapport à la résurrection des âmes, car nous devons aussi être conformes par notre âme au Christ ressuscité. Il est évident que ce n'est pas la résurrection de l'âme, c'est-à-dire par l'état de grâce, que nous pouvons aller au ciel. Quant à la causalité efficiente, dit saint Thomas, qui vient de la vertu divine, la passion du Christ et aussi sa résurrection sont causes de la justification sur ces deux aspects. Mais, dit-il, au point de vue de la causalité exemplaire, la passion et la mort du Christ sont la cause propre de la rémission de la faute qui nous fait mourir au péché. Et la résurrection du Christ est la cause d'une vie nouvelle. C'est-à-dire que si nous avons la foi en la résurrection du Christ et que nous formions, quelque sorte, philosophiquement parlant et théologiquement parlant, que nous formions cette foi, que nous la rendions formée par la vertu de charité, à ce moment-là, nous pourrons ressusciter à une vie nouvelle. Puis, saint Thomas continue d'avancer dans la vie du Christ, puisque c'est le sujet de ce grand traité, le Verbe incarné, qui va couvrir toutes les étapes de la vie du Christ. Il va parler en question 57 de la Tertia Pars de l'ascension du Christ. Il se pose d'abord la question de savoir s'il était convenable que le Christ montât au ciel. Le Christ, dit-il, par sa résurrection, a commencé une vie immortelle et incorruptible. Donc à cause de cette incorruptibilité, de cette immortalité, il était normal qu'il monta au ciel. L'ascension du Christ qui nous a privé de sa présence corporelle nous a été même plus utile que ne l'aurait été cette présence elle-même pour les raisons suivantes. Et saint Thomas va donner les raisons de l'ascension. Encore une fois, elle augmente notre foi qui a pour objet ce qu'on ne voit pas. Elle relève notre espérance. Il avait dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Troisième raison, cette ascension du Christ dirige vers les réalités célestes l'affection de notre charité. On regarde le ciel vers lequel notre Seigneur Jésus-Christ monte le jour de son ascension, c'est-à-dire 40 jours après Pâques. Alors je continue dans cette question 57, toujours dans la tertia pars. Selon quelle nature convenait-il au Christ de monter au ciel? Alors, saint Thomas va bien expliquer les choses, voilà sa réponse. Il est évident, dit-il, que c'est selon son humanité que le Christ est monté et descendu, puisqu'en tant que Dieu, il est partout. Le Christ est monté au ciel en tant qu'homme, non en tant que Dieu. Il n'a pas besoin de monter au ciel en tant que Dieu, puisqu'il est partout. Donc, il cite saint Augustin, voilà le texte cité par saint Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il tenait de nous, parce qu'il tenait de nous que le Fils de Dieu a été suspendu à la croix, mais c'est parce qu'il tenait de lui qu'il est monté aux cieux. Il est monté aux cieux, il a fait monter son corps corporel qu'il tenait de sa mère par les mérites de sa divinité, à cause de l'union entre l'humanité et la divinité dans la personne du Christ. Donc, c'est parce qu'il tenait de Dieu qu'il est monté aux cieux par ses propres forces, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu. Mais il est évident qu'il ne pouvait pas être suspendu à la croix en tant que Dieu. Il a fallu qu'il soit suspendu à la croix en tant qu'homme, puisqu'un Dieu ne peut pas souffrir. Notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel lui qui a fait toutes choses, par sa propre puissance. Il était porté au-dessus de toutes choses par sa propre puissance. Donc, c'est par la puissance, la vertu de la gloire, que le Christ est monté au ciel. Nous avançons dans le texte. Si le Christ est monté au ciel, c'est par sa propre puissance. Tout d'abord par la puissance divine, et en second lieu par la puissance de l'âme glorifiée qui meut le corps comme elle le veut, parce que cette âme glorifiée est unie à la divinité. Dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment monté au ciel avec son corps. Il s'est élevé au-dessus de tous les cieux afin de tout accomplir. Lorsque je serai élevé de ciel, de terre, j'attirerai tout à moi. Alors, je passe sur des choses moins importantes. Le corps du Christ est monté également au-dessus de toutes les créatures spirituelles. Il va citer Saint Paul. Saint Thomas cite Saint Paul, Éphésiens chapitre 1. Il l'a établi. Il établit le Christ au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout ce qui peut se nommer, non seulement dans le siècle passé, mais encore dans le siècle à venir. Voyons maintenant les effets de l'ascension, qui suit le même plan avec chacune des étapes de la vie du Christ. Donc, quels sont les effets de l'ascension? L'ascension du Christ est la cause de notre salut. De même que sa résurrection est cause de notre salut. Son ascension du Christ, cette ascension du Christ est la cause de notre salut par rapport à nous, mais aussi par rapport au Christ lui-même. Donc par rapport à nous, dit-il, l'ascension du Christ est cause de notre salut. Grâce à elle, en effet, notre esprit se tourne vers lui. Pourquoi l'ascension est utile? Il va reprendre les mêmes arguments. Elle est utile à notre foi, à notre espérance, à notre charité. En outre, dit-il, notre respect pour le Christ augmente car nous le considérons plus comme un homme terrestre, car nous ne le considérons plus comme un homme terrestre, mais comme Dieu. Il prouve par son ascension sa divinité et donc augmente la foi, l'espérance et la charité en nous. Mais par rapport au Christ lui-même, l'ascension est cause de notre salut parce qu'il nous a préparé la voie pour monter au ciel. Il avait dit en Saint Jean, je vais vous préparer une place. Il faut que là où je suis, vous soyez aussi. De même que le grand prêtre de l'Ancien Testament entrait dans le sanctuaire afin de se tenir devant Dieu, de représenter le peuple, ainsi le Christ est entré au ciel afin d'intercéder pour nous. Il monte au ciel pour nous préparer une place là-haut. Le Christ, siégeant ainsi dans les cieux comme Dieu et Seigneur, envoie de là-haut les biens divins aux hommes, à tous les hommes qui sont restés ici-bas sur la terre. On voit la netteté des explications de saint Thomas. Alors, le catéchisme et le credo nous enseignent que notre Seigneur Jésus-Christ est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père. Donc saint Thomas va avoir une question sur ce point-là. La session du Christ à la droite du Père, et il s'est assis à la droite du Père. Alors, convenait-il, demande saint Thomas d'Aquin, convenait-il au Christ de siéger à la droite du Père? Voilà ce qu'il va dire. Il va expliquer les raisons. Il y goûte le repos en tant qu'il demeure éternellement incorruptible dans la béatitude du Père. C'est ce qu'on signifie. C'est ce que signifie le mot droite, hein, qui est un mot mystique, si vous voulez. C'est un symbole. Notre Seigneur Jésus-Christ est en Dieu et partout. Le Christ siège aussi à la droite de Dieu le Père parce qu'il règne avec lui et tient de lui son pouvoir judiciaire. Donc, il cite cet Augustin, par la droite, entendez le pouvoir que cet homme pris par Dieu a reçu pour venir juger, lui qui était venu d'abord pour être jugé. Donc la droite du Père, c'est la gloire et l'honneur de la divinité. Donc le mot droite est assis à droite du Père. Donc il ne faut pas imaginer que le Christ n'est simplement qu'à la droite et pas à la gauche. Il est partout, puisqu'il est Dieu. Mais la droite du Père symbolise justement cet honneur de la divinité. Donc cette cession du Christ à la droite du Père convenait au Christ en tant que Dieu, dit saint Thomas. La droite du Père, il cite saint Jean Damascène, c'est la gloire et l'honneur de la divinité, on a déjà vu, en laquelle le Fils de Dieu existe avant les siècles, comme Dieu et en tant qu'il est, comme Dieu et en tant qu'il est consubstantiel au Père. Il répète ce qu'il a déjà dit, d'une autre manière. Donc siéger à la droite du Père, dit-il, ce n'est donc rien d'autre que de posséder comme le Père la gloire de la divinité, la béatitude et le pouvoir judiciaire, et cela d'une manière immuable et royale. Il est évident donc que le Christ, en tant que Dieu, est assis à la droite du Père. Il répète pour être sûr qu'on comprenne bien les choses. Donc saint Thomas va ensuite se poser la question de savoir si notre Seigneur Jésus-Christ, on a la question 58 de l'Interciapart, article 3, est-ce que siéger à la droite du Père convient au Christ en tant qu'homme ? Alors voilà ce que dit saint Thomas. Par la droite de Dieu, entendez le pouvoir que cet homme, assumé par Dieu, a reçu pour venir juger, lui qui était venu pour être jugé. Il recite le même texte qu'il a déjà cité de saint Augustin. Alors, je passe, puisque ça a déjà été expliqué par les textes précédents. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ montre bien, si vous voulez, notre Seigneur Jésus-Christ au ciel est toujours uni à son humanité. Il n'est pas monté au ciel en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Rappelez-vous, saint Thomas a déjà expliqué tout ça. Alors, question 58, article 4. Siéger à la droite du Père est-il propre au Christ ? Donc, le Christ siège à la droite du Père en ce sens que selon sa nature divine, il est égal au Père. Et que selon sa nature humaine, il possède les biens divins plus excellemment que toutes les autres créatures. Il n'appartient donc à nul autre qu'au Christ, ange ou homme, de siéger à la droite du Père. Parce qu'il est le seul. Il n'appartient à nul autre qu'au Christ, ange ou homme, de siéger à la droite du Père. Seul Dieu peut siéger à la droite de Dieu. Dieu, le Fils, peut siéger à la droite du Père, dans le sein de la Sainte Trinité. Enfin, dernière question de ce grand traité du verbe incarné, question 59, le pouvoir judiciaire du Christ. Parce qu'avec la question 59, je termine le traité du verbe incarné. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, nous dit le credo, pour juger les vivants et les morts. C'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alors, il va expliquer ça en six articles, les six derniers articles du traité sur le Verbe incarné, donc question 59 de la Interciapart. Alors, il se pose d'abord la question de savoir si le pouvoir judiciaire, le pouvoir de jugement, doit-il être attribué au Christ. Et donc, il répond, c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il cite saint Luc dans les Actes des Apôtres. Donc, trois qualités sont requises pour prononcer un jugement, explique-t-il. D'abord, le pouvoir de contraindre les sujets. Deuxièmement, le zèle de la droiture, afin de rendre les jugements non par haine ou par envie, mais par amour de la justice. Troisièmement, il faut la sagesse qui sert à établir le jugement. Donc, le Fils étant la sagesse engendrée, la vérité qui procède du Père et le représente parfaitement, il s'ensuit que le pouvoir judiciaire est attribué en propre au Fils de Dieu, parce qu'il a justement toutes ses qualités. Pour contraindre les sujets, il a le zèle de la droiture et la sagesse. Sagesse divine, puisqu'il est Dieu. Donc, ce pouvoir judiciaire, dit saint Thomas, donc saint Thomas va expliquer, se répondre à la question de savoir si ce pouvoir judiciaire convient au Christ en tant qu'homme. Voilà ce qu'il dit. Donc, le Christ, dans sa nature humaine, est chef de l'Église tout entière, même dans sa nature humaine. Il est chef de l'Église tout entière, dans sa nature divine évidemment, mais aussi dans sa nature humaine. Donc Dieu a mis toute chose sous ses pieds. Il lui appartient donc, même dans sa nature humaine, d'avoir le pouvoir judiciaire. Ce pouvoir judiciaire, donc le Christ le possède en vertu de la grâce capitale qu'il a reçue dans sa nature humaine. Le pouvoir judiciaire convient donc de la sorte au Christ selon sa nature humaine pour trois raisons, dit saint Thomas. D'abord à cause de sa communauté et son affinité avec tous les autres hommes. Bon, pourquoi ? Parce qu'il est homme. Deuxièmement, au jugement dernier, lors de la résurrection des morts, Dieu ressuscite les corps par le Fils de l'homme comme il ressuscite les âmes par le même Christ en tant qu'il est Fils de Dieu. Donc il est fils de l'homme, né de la Vierge Marie, mais aussi fils de Dieu en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité. Il faut donc que dans le jugement, la forme de l'esclave soit montrée aux méchants comme aux bons, et que la forme de Dieu soit réservée aux seuls bons. Donc seuls les élus verront Dieu. Article 3 de cette question 59 de la tertia part. Le Christ a-t-il obtenu le pouvoir judiciaire par ses mérites? Voilà ce que répond saint Thomas d'Aquin. Le pouvoir judiciaire appartient tout ensemble au Christ homme en raison de sa personne divine, de sa dignité de chef et de la plénitude de sa grâce habituelle. Toutefois, il l'a aussi reçu de ses mérites. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous dit... Saint Thomas d'Aquin a obtenu ses pouvoirs, le pouvoir judiciaire, on veut dire pas simplement en tant que Dieu, mais également en tant qu'homme. C'est pour ça que Saint Thomas dit que le pouvoir judiciaire appartient tout ensemble au Christ homme, en raison de sa personne divine et de sa dignité de chef et de la plénitude de sa grâce habituelle. Mais il l'a reçu aussi en vertu de ses mérites. Voilà ce que dit Saint Thomas. Ensuite, saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir si le pouvoir judiciaire du Christ est universel par rapport à toutes les affaires humaines. Il répond en disant que si l'on parle du Christ selon sa nature divine, il est évident que tout jugement appartient au Christ. Pourquoi ? Parce qu'il est roi. Roi par nature et roi par droit de conquête, dit le pape Pie XI dans son encyclique sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si l'on parle du Christ selon sa nature humaine, il est également manifeste que toutes choses sont soumises à son jugement. Et saint Thomas va donner trois raisons. À cause, d'abord, de la relation particulière qui existe entre l'âme du Christ et le Verbe de Dieu. L'âme est unie à la divinité dans le Christ. Deuxièmement, à cause du mérite de la mort du Christ, qui le montre aussi. Il va citer saint Paul. Le Christ est mort et ressuscité afin d'être le Seigneur des vivants et des morts. Troisièmement, on le voit encore si l'on considère le rapport des réalités humaines à la fin du salut de l'homme. Les réalités humaines sont donc toutes ordonnées à cette fin, la béatitude. Cette béatitude, c'est le salut éternel. Et les hommes y sont admis ou rejetés par le jugement du Christ, comme on le voit dans saint Matthieu. Il est donc évident que toutes les réalités humaines sont soumises au pouvoir judiciaire du Christ. Il est maître de toute sa création. Alors, il faut bien préciser donc que notre Seigneur Jésus-Christ est maître aussi de ceux qui ne sont pas catholiques. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont cette espèce d'idée bizarre que le Christ va juger les catholiques, mais que les non-catholiques ne seront pas jugés par lui parce que ils n'ont pas la foi et qu'ils sont nés hors de l'Église. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ a créé tous les hommes, y compris les non-catholiques. Donc tous les hommes sont tenus à le reconnaître comme Dieu. Alors, à la fin des temps, au dernier jour, nous dit saint Thomas, il y aura en plus un jugement en dehors du jugement rendu présentement. Il est établi que les hommes meurent une fois, après quoi ils sont jugés. C'est l'apôtre qui le dit dans l'épître aux Hébreux. Donc l'homme, on est à la question 59, article 5, outre le jugement que le Christ exerce dans le temps présent, il faut attendre un autre jugement universel dans les temps à venir. En effet, dit saint Thomas, l'homme peut se survivre dans la mémoire des autres hommes, dans ses enfants qui sont comme quelque chose du Père, dans les conséquences de ses actes, dans son corps et dans des réalités où l'homme a mis son affection. Donc saint Thomas explique bien que donc notre Seigneur Jésus-Christ exerce son jugement non seulement dans le temps présent, mais qu'il l'exercera aussi à la fin des temps par la résurrection générale, le jugement de tous les hommes. C'est pourquoi il faut soutenir qu'après la mort, l'homme, pour tout ce qui touche à l'âme, obtient un statut immuable. Pourquoi ? Parce que on saute du temps à l'éternité. Quand on est dans l'éternité, on ne peut plus bouger, donc on a un statut immuable, il n'y a plus de mouvement après notre mort, puisqu'on n'est plus dans le temps, qu'il faut du temps pour pouvoir avoir un mouvement, c'est-à-dire un passage de la puissance à l'acte. Donc c'est important ce texte-là, je pourrais en parler pendant des heures, mais je ne veux pas trop rallonger ce cours et terminer aujourd'hui le traité sur le Verbe incarné, mais il explique bien donc que l'homme peut se survivre en bien ou en mal, dans la mémoire des autres hommes, dans ses enfants, dans les conséquences de ses actes, dans son corps et dans la réalité où l'homme a mis son affection. Donc attention à ce qu'on fait et les conséquences de ce qu'on fait. Je pense qu'on arrive à la fin là de... À la fin, c'est ça. À la fin de la question de la, du traité sur la, le Verbe incarné. Le dernier article de la question 59, le pouvoir judiciaire du Christ s'étend-il même aux anges? Donc, il est évident que puisque notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus des anges, donc son pouvoir judiciaire s'étend aux anges, c'est évident. L'union étroite entre Dieu et la nature que le Christ... Attends, je reprends, pour vous compreniez mieux. Les anges sont soumis, dit saint Thomas, au pouvoir judiciaire du Christ, non seulement selon sa nature divine, mais encore en raison de sa nature humaine. Parce que trois motifs le mettent en évidence. D'abord, l'union étroite entre Dieu et la nature que le Christ a assumée. Deuxièmement, en raison de l'abaissement de sa passion, la nature humaine du Christ mérite d'être élevée au-dessus des anges. Enfin, troisièmement, la mission que les anges, en raison de la mission que les anges exercent auprès des hommes dont le Christ est le chef. Donc, les anges sont soumis, en toute chose, au jugement du Christ. Et attention, pas simplement en tant que le Christ est Dieu, mais aussi en tant que le Christ est homme, Dieu. Donc, les anges sont soumis au jugement du Christ, d'abord dans la répartition de leurs charges, les anges étaient à son service, dans les autres récompenses accidentelles que reçoivent les bons anges, à savoir la joie qu'ils éprouvent du salut des hommes, et enfin dans la récompense essentielle des bons anges, qui est la vie éternelle, et dans la peine essentielle des démons, qui est la damnation éternelle. Voilà la raison, dit saint Thomas en conclusion, pour laquelle Dieu n'a remis à aucun autre le gouvernement de la terre, et c'est un seul et même être qui est à la fois Dieu et homme, le Seigneur Jésus-Christ. Une phrase magnifique de saint Thomas, et c'est par cette phrase qui clôture le grand traité sur le Verbe incarné. Donc, nous avons terminé ce traité du Verbe incarné et nous commencerons, donc, si Dieu veut, la prochaine fois, au prochain cours, nous commencerons le traité sur les sacrements. D'abord sur le sacrement en général et ensuite les sacrements en particulier. Donc, nous terminons par une petite prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez tout pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous.